Jorge, à présent, après une longue pause, se remettait à parler.
« Mais enfin, qui est le symbole même de cet orgueil ? De qui les orgueilleux sont figures et héros, complices et enseignes ? Qui, en vérité, a agi et peut-être agit encore dans ces murs, au point de nous avertir que les temps sont proches, et de nous consoler, car si les temps sont proches, les souffrances seront certes insoutenables, mais non pas infinies dans le temps, étant donné que le grand cycle de cet univers va d'ici peu s'accomplir ? Oh, vous l'avez parfaitement compris, et tremblez d'en dire le nom, parce que c'est aussi le vôtre, et vous en avez peur. Mais si la peur vous étreint, elle ne m'étreint pas à moi. Et ce nom, je le dirai à très haute voix, afin que vos entrailles se tordent d'épouvante et que vos dents claquent jusqu'à vous couper la langue et que la glace qui se formera dans votre sang fasse tomber un voile sombre sur vos yeux. C'est la bête immonde, cet antéchrist !» Il fit une autre, très longue pause. Les assistants paraissaient morts. L'unique chose mobile dans toute l'église était la flamme du trépied, mais les ombres mêmes qu'elle projetait paraissaient avoir gelé. L'unique bruit, faible, rauque, étouffé, était le halètement de Rolleré qui épongeait la sueur de son front. Puis il reprit.
« Vous allez peut-être me dire, non, celui-là n'est pas encore prêt de venir. Où sont les signes de sa prochaine venue ? Sot qui le dirait ! Mais, puisque nous en avons devant les yeux, jour après jour, dans le grand amphithéâtre du monde, et dans l'image réduite de l'abbaye, les avant-coureurs catastrophiques. Il a été dit que quand le moment se rapproche, se dressera, en Occident, un roi étranger, seigneur d'immenses biens frauduleusement acquis, athée, massacreur d'hommes, assoiffé d'or, astucieux comme un renard, mauvais, ennemi des fidèles et leurs persécuteurs, et qu'à son époque, on ne tiendra nul compte de l'argent, mais on n'aura d'estime que pour l'or. Je sais, vous qui m'écoutez, vous vous hâtez maintenant de faire vos petits calculs pour savoir si celui dont je parle ressemble au pape ou à l'empereur ou au roi de France ou à qui vous voudrez pour pouvoir dire « C'est bien lui mon ennemi et je suis du bon côté. » Mais je ne suis pas ingénu au point de vous indiquer un homme. L'antéchrist, quand il vient, vient en tout le monde et pour tout le monde et chacun en est parti. Il sera dans les bandes de brigands qui saccageront villes et régions. Il sera en d'inattendus signes des cieux, où apparaîtront soudain des arcs-en-ciel, des cornes et des feux, tandis qu'on entendra mugir des voix et que la mer bouillonnera. On a dit que les hommes et les bêtes engendreront des dragons, mais on voulait dire que les cœurs concevront haine et discorde. Et cessez de regarder autour de vous pour apercevoir les bêtes des miniatures qui vous divertissent dans les parchemins. On a dit que les jeunes épousés accoucheront d'enfants déjà en mesure de parler parfaitement, lesquels annonceront que les temps sont mûrs et demanderont d'être tués. Mais ne cherchez point parmi les villages dans la vallée, les enfants trop savants ont déjà été tués dans ces murs. Et comme ceux des prophéties, ils avaient l'aspect d'hommes déjà chenus, et de la prophétie ils étaient les fils quadrupèdes, et les spectres, et les embryons qui devraient prophétiser dans le ventre des mères en prononçant des incantations magiques. Et tout a été écrit, savez-vous ? Il a été écrit que nombreuses seront les agitations dans les couches de la société, dans les peuples, dans les églises, que surgiront des pasteurs iniques, pervers, dénigreurs, avides, désireux de plaisir, aimant le gain, se complaisant en de vains discours, hâbleurs, hautains, gourmands, arrogants, plongés dans la luxure, en quête de glorioles, ennemis de l'Évangile, prêts à renier la porte étroite, à mépriser la vraie parole, et ils prendront en haine tout sentier de pitié.
ils ne se repentiront pas de leurs péchés, au point qu'au milieu des peuples se répandront l'incrédulité, la haine entre frères, la méchanceté, la dureté, l'envie, l'indifférence, le vol, l'ivresse, l'intempérance, la lubricité, le plaisir charnel, la fornication et tous les autres vices. S'éclipseront l'affliction, l'humilité, l'amour de la paix, la pauvreté, la compassion, le don des larmes. Allons, courage! Vous ne vous reconnaissez pas, vous tous ici présents, moines de l'abbaye et puissants venus de l'extérieur?
Dans la pause qui suivit, on entendit un bruissement. C'était le cardinal Bertrand qui s'agitait sur son siège. Au fond, pensais-je, Rolleret se comportait en grand prédicateur. Et tout en fustigeant ses frères, il n'épargnait pas même les visiteurs. Et j'eusse donné je ne sais quoi pour savoir ce qui se passait en ce moment par la tête de Bernard ou des gras avignonnais.
« Et ce sera juste à ce point-là, qui est justement le nôtre !» tonna Rolleret, « que l'Antéchrist aura sa parousie blasphématoire, singe qu'il se veut de notre Seigneur. En ces temps-là qui sont les nôtres, tous les royaumes seront bouleversés. Il y aura famine et pauvreté et pénurie de moissons et hiver d'une exceptionnelle rigueur. Et les enfants de ce temps-là, qui est le nôtre, n'auront plus personne pour administrer leurs biens et conserver dans leurs dépôts les aliments. Et ils seront humiliés sur les marchés d'achat et de vente. Bienheureux alors ceux qui ne vivront plus ou qui, tout en vivant, réussiront à survivre. Alors viendra le fils de la perdition, l'adversaire qui se glorifie et se gonfle en exhibant de multiples vertus pour leurrer toute la terre et pour prévaloir sur les justes. Alors de tous côtés se montreront abomination et désolation. L'Antéchrist triomphera de l'Occident et détruira les voies de circulation. Il aura dans les mains flamberges et feux ardents, et il brûlera plein de fureur, de violence et de flammes. Sa force sera le blasphème, tromperie sa main, la dextre sera ruine, la senestre porteuse de ténèbres. Voici les traits qui le distingueront. Sa tête sera de feu ardent, son œil droit injecté de sang, son œil gauche d'un vert félin, et il aura deux pupilles, et ses paupières seront blanches. Large sa lèvre inférieure, faible son fémur, gros ses pieds, son pouce écrasé et allongé.
On dirait son portrait, ricana Guillaume dans un souffle. C'était une phrase fort impie, mais je lui en sus gré car mes cheveux se dressaient sur ma tête. Je retins tout juste un éclat de rire, gonflant les joues et laissant échapper un filet d'air de mes lèvres closes. Bruit que, dans le silence tombé sur les dernières paroles du vieillard, on entendit très bien, mais heureusement, tous pensèrent qu'il s'agissait de quelqu'un qui toussait, ou pleurait, ou frémissait, et tous en avaient largement de quoi.
« C'est le moment où, » disait maintenant Rolleret, « tout tombera dans l'arbitraire. Les enfants lèveront les mains contre leur géniteur. L'épouse tramera contre son mari. Le mari appellera en jugement son épouse. Les maîtres seront inhumains avec leurs serviteurs et les serviteurs désobéiront à leurs maîtres. On ne révérera plus les vieillards. Les adolescents demanderont le commandement. Le travail apparaîtra à tous une peine inutile. De partout s'élèveront des cantiques de gloire à la licence, au vice, à la liberté dissolue des mœurs. Après quoi, viol, adultère, parjure, péchés contre nature suivront par grandes vagues, et les maux et les divinations et les ensorcellements, et apparaîtront dans le ciel des corps volants, surgiront au milieu des bons chrétiens de faux prophètes, de faux apôtres, des corrupteurs, des imposteurs, des sorciers, des violateurs, des avares, des traîtres et des falsificateurs. Les pasteurs se changeront en loups, les prêtres répandront le mensonge. Les moines désireront les choses du monde. Les pauvres n'accourront pas à l'aide des chefs. Les puissants seront sans miséricorde. Les justes se feront témoins d'injustice. Toutes les villes
seront ébranlés par des tremblements de terre. Il y aura des épidémies de peste dans toutes les régions. Des tempêtes de vent soulèveront la terre. Les champs seront contaminés. La mer sécrétera des humeurs noirâtres. De nouveaux prodiges inconnus auront lieu sur la lune. Les étoiles abandonneront leur cours normal. D'autres inconnus sillonneront le ciel. Il neigera l'été et fera une chaleur torride l'hiver. Et seront venus les temps de la faim et la fin des temps. Le premier jour, à la troisième heure, s'élèvera dans le firmament une voix haute et puissante. Une nue purpurine viendra du septentrion. Tonnerres et éclairs la suivront, et sur la terre descendra une pluie de sang. Le deuxième jour, la terre sera arrachée à son socle, et la fumée d'un grand feu passera à travers les portes du ciel. Le troisième jour, les abîmes de la terre gronderont aux quatre coins du cosmos. Les pinacles du firmament s'ouvriront. L'air se remplira de piliers de fumée et une puanteur de soufre s'exhalera jusqu'à la dixième heure. Le quatrième jour, tôt le matin, l'abîme se liquéfiera et émettra d'énormes explosions et les édifices tomberont. Le cinquième jour, à la sixième heure, se verront défaites les puissances de lumière et la roue du soleil, et les ténèbres envelopperont le monde jusqu'au soir, et les étoiles et la lune cesseront de jouer leur rôle. Le sixième jour, à la quatrième heure, le firmament se fendra de l'Orient à l'Occident, et les anges pourront regarder sur la terre à travers la trouée des cieux, et tous ceux qui sont sur la terre pourront voir les anges qui regardent du ciel. Alors, tous les hommes se cacheront sur les montagnes pour fuir le regard des anges justes. Et le septième jour, arrivera le Christ dans la lumière de son Père. Et il y aura alors le jugement des bons et leur ascension dans la béatitude éternelle des corps et des âmes. Mais ce n'est pas sur cela que vous méditerez ce soir, frères orgueilleux. Ce n'est pas aux pécheurs qu'il reviendra de voir l'aube du huitième jour, lorsque de l'Orient s'élèvera une voix douce et tendre au milieu du ciel, et que se manifestera cet ange qui a pouvoir sur tous les autres anges saints. Et tous les anges avanceront avec lui, assis sur un char de nu, plein de joie, courant à vive allure à travers les airs, pour libérer les élus qui ont cru. Et tous ensemble, ils se réjouiront parce que la destruction de ce monde aura été consommée. Ce n'est point de cela, nous, que nous devons orgueilleusement nous réjouir ce soir. Nous méditerons par contre sur les paroles que le Seigneur prononcera pour chasser loin de lui ceux qui n'ont pas mérité d'être sauvés. « Loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui vous a été préparé par le diable et par ses ministres. » Vous-même l'avez bien mérité, et maintenant vous pouvez en jouir. Éloignez-vous de moi en descendant dans les ténèbres extérieures et dans le feu inextinguible. C'est moi qui vous ai donné forme, et vous vous fîtes les disciples d'un autre. Vous vous êtes fait les servants d'un autre Seigneur. Allez demeurer avec lui dans le noir, avec lui, le serpent qui n'a ni paix ni trêve, au milieu des grincements de dents. Je vous ai donné l'ouïe pour que vous prêtiez votre attention à la lecture des Écritures et vous écoutez les paroles des païens. Je vous ai modelé une bouche pour glorifier Dieu et vous en avez usé pour le leurre des poètes et pour les énigmes des histrions. Je vous ai donné des yeux pour que vous voyiez la lumière de mes préceptes et vous en avez usé pour scruter dans la ténèbre. Je suis un juge humain, mais juste. Je donnerai à chacun selon son mérite. Je voudrais avoir miséricorde de vous, mais je ne trouve point d'huile dans vos vases. Je serais enclin à m'apitoyer, mais vos lampes sont enfumées. Éloignez-vous de moi. Ainsi parlera le Seigneur. Et ceux-là, et nous peut-être, descendrons dans l'éternel supplice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen,
répondirent-ils tous d'une seule voix. Tous en rang, sans un murmure, les moines allèrent à leur grabat. Sans désir de se parler, disparurent les minorites et les hommes du pape, aspirant à l'isolement et au repos. Mon cœur était lourd. « Au lit, Atso, » me dit Guillaume en montant les escaliers de l'hôtellerie. « Ce n'est pas un soir à circuler dehors. Il pourrait venir à l'esprit de Bernard Guy d'anticiper la fin du monde en commençant par nos carcasses. Demain, nous tâcherons d'être présents à Matine, car sitôt après partiront Michel et les autres minorites.
« Bernard aussi partira avec ses prisonniers ?» demandai-je dans un filet de voix.
« Sûrement. Il n'a plus rien à faire ici. Il faudra précéder Michel en Avignon, mais de telle manière que son arrivée coïncide avec le procès du Célérier, minorite, hérétique et assassin. Le bûcher du Célérier éclairera comme un flambeau propitiatoire la première rencontre de Michel avec le pape.
Et qu'arrivera-t-il à Salvatore et à la fille ?
Salvatore accompagnera le Célérier parce qu'il devra témoigner à son procès. Il se peut qu'en échange de ce service, Bernard lui accorde la vie sauve. Il pourra même le laisser filer pour le faire tuer ensuite. Ou peut-être le laissera-t-il aller vraiment, car un être comme Salvatore n'intéresse pas un être comme Bernard. Qui sait ? Peut-être finira-t-il coupe-jarret dans quelque forêt du Languedoc.
Et la fille ?
Je te l'ai dit, c'est de la chair à bûcher. Mais elle brûlera avant, en cours de route. Façon d'édifier quelques villages cathares le long de la côte. J'ai entendu dire que Bernard devra rencontrer son collègue Jacques Fournier. Souviens-toi de ce nom. Pour l'heure, il brûle des albigeois, mais il vise plus haut, et une belle sorcière à mettre sur les fagots augmentera le prestige et la renommée de l'un et de l'autre.
« Mais ne peut-on rien faire pour les sauver ? » m'écriai-je. « L'abbé ne peut-il intervenir ? »
« Pour qui ?» Pour le Célérier accusé qui s'est reconnu coupable ? Pour un misérable comme Salvatore ? Ou tu penses à la fille ?
Et si cela était, m'enhardis-je,
des trois au fond, c'est la seule vraiment innocente. Vous savez bien, vous, que ce n'est pas une sorcière. Et tu crois que l'abbé, après ce qui s'est passé, voudra risquer le peu de prestige qui lui reste pour une sorcière ?
Mais il a pris sur lui de faire fuir Hubertin.
Hubertin était l'un de ses moines. Et il n'était accusé de rien. Et puis, quelle sottise me dis-tu là ? Hubertin était une personne importante. Bernard n'aurait pu le frapper que dans le dos. Ainsi, le Célérier avait raison. Les simples paient toujours pour tout le monde, même pour ceux qui parlent en leur faveur, même pour ceux, comme Hubertin et Michel, qui, avec leurs mots de pénitence, les ont poussés à la révolte. J'étais désespéré, et je ne considérais même pas que la fille n'avait rien d'un fratricelle, séduit par la mystique d'Hubertin. Pourtant, c'était une paysanne et elle payait pour une histoire qui ne la concernait pas.
« C'est ainsi, » me répondit tristement Guillaume. « Et si tu tiens réellement à trouver un ray de justice, je te dirai qu'un jour les gros chiens, le pape et l'empereur, pour faire la paix, passeront sur le corps des chiens plus petits qui se sont empoignés à leur service. Et Michel ou Hubertin seront traités comme aujourd'hui on traite ta jeune fille. »
À présent, je sais que Guillaume prophétisait, autrement dit, argumentait par syllogisme sur la base de principes de philosophie naturelle. Mais à ce moment-là, ses prophéties et ses syllogismes ne me consolèrent nullement. L'unique chose certaine était que la jeune fille serait brûlée. Et je me sentais co-responsable, car c'était comme si, sur le bûcher, elle expiait aussi pour le péché que j'avais commis avec elle. J'éclatais sans pudeur en sanglots et m'enfuis dans ma cellule où pendant toute la nuit je mordis ma paillasse et gémis impuissant parce qu'il ne m'était pas même permis, comme j'avais lu dans les romans de chevalerie, avec mes compagnons de Melk, de me lamenter en invoquant le nom de l'aimé. De l'unique amour terrestre de ma vie, je ne savais et ne sus jamais le nom.